Approchez-vous, approchez-vous. Alors j'espère que tout le monde, on va peut-être avoir un micro si ça aide, ça ou ça, oui c'est mieux. Alors est-ce que vous, tous vous avez pu lire le livre de Jonas? Ah, c'est parfait. Donc on est bon. Alors voilà comment je vais appeler notre exposé sur Jonas. Jonas ou le prophète malgré lui, Jonas ou l'anti-prophète ou l'anti-héros, Jonas le Gaston Lagaffe de la Bible. Alors, vous allez comprendre pourquoi, évidemment, tout au long de l'exposé, pourquoi je dis cela. Alors d'abord, c'est un des livres les plus courts de la Bible, vous avez vu, il y a 3-4 chapitres. Et pourtant, combien il est connu, combien il a marqué l'histoire. Partout, on parle, dès qu'on vous parle de la baleine, hein, vous savez qu'on fait allusion à Jonas. Donc ce tout petit prophète obscur que personne ne connaît, comment a-t-il pu avoir une telle importance? Alors, lui qui fuit, alors que c'est vraiment, encore une fois, un anti-prophète, hein, qui fuit sa mission, que Dieu rattrape par une baleine. Mais souvent, cette baleine, elle nous empêche de voir l'originalité de Jonas. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique et pourquoi il est si important? Voilà. Alors, pourquoi Jonas? Pourquoi nous avons choisi ce livre et pourquoi ce nom, pourquoi cette personne, etc. Alors là, pour ça, je m'appuie mon micro. Ouais. Alors, je m'appuie de ce petit livre qui est magnifique pour lire les prophètes de Jean-Pierre Prévost. Hein, si vous voulez connaître un peu les prophètes et la Bible, c'est très très bien. Et je fais un petit résumé de ce qu'il écrit sur Jonas. Alors, tout d'abord, pourquoi Jonas? D'abord, le livre de Jonas, c'est une pure fiction. N'essayez pas, déjà, au point de départ, il faut le dire. C'est un pur personnage imaginaire. Mais il y a un auteur génial à ce petit livre, qui est complètement inconnu, un homme qui a beaucoup d'imagination. Un homme qui a beaucoup d'imagination, un homme qui a une doctrine théologique tout à fait incroyable, on verra pourquoi, et un homme qui a une foi très profonde. Alors un auteur génial qui se cache derrière un vrai prophète Jonas qui a existé, dont on parle dans le deuxième livre des Rois, 4 ou 5 siècles avant celui qui écrit, et qui a exactement la pensée inverse du livre de Jonas. Il montre le fameux prophète Jonas soutient le roi Jéroboam dans son projet de reconstruire Israël, d'expansionnisme, etc. Et alors justement, eh bien, l'auteur de ce livre se cache derrière ce prophète, le prend lui, parce que c'est le candidat idéal pour broder et pour se moquer de lui, en disant exactement le contraire de ce qu'a fait le vrai prophète Jonas. Alors, il y a une autre version qui dit pourquoi on a donné ce nom à ce prophète. Alors, parce que Yonah, Y-O-N-A-H en hébreu, signifie la colombe. Et on fait un parallèle entre Genèse 6, avec la colombe, vous savez, qui ramène le petit rameau d'olivier que Noé envoie pour reconnaître la terre. Après 40 jours après le déluge, le déluge a ravagé la terre à cause du péché qui était partout. Et bizarrement, Jonas reste 40 jours dans le ventre de la baleine pour apporter la destruction, parce qu'il s'enfuit, mais c'est ce que Dieu veut, qu'il détruise Ninive, où la méchanceté est partout. Donc vous voyez le parallèle. Et la conclusion est la même dans Genèse 6 et Jonas, c'est que Dieu se ravise du projet de malheur qu'il avait fait, et Dieu se révèle au contraire être un Dieu de miséricorde pour tous. Donc vous voyez ce parallèle très intéressant. Il y aura d'autres parallèles avec d'autres passages de la Bible qui sont très féconds pour comprendre. Alors, premièrement, donc, je vous ai dit pourquoi Jonas? Qui est Jonas? Deuxièmement, Jonas, donc, est-ce un mythe, une réalité? On va revenir là-dessus. Est-ce que c'est une fiction ou une histoire vraie? C'est un récit donc construit de toutes pièces. Mais pourquoi? Pour des raisons purement théologiques. Parce que, vraiment, l'auteur de ce livre veut expliquer quelque chose de très profond. Alors, voyez, on se pose toujours la question quand on lit ça. Alors, comment est-ce que Jonas, il a pu aller parler à 120 000 personnes? Est-ce qu'il est bien allé dans une baleine, etc.? Donc, hein, tout de suite, pas besoin de chercher. Tout ça, c'est inventé. Et on va essayer de voir quelques petits éléments qui montrent que c'est une pure fiction. Vous voyez, c'est comme une fable de La Fontaine, on va dire, comme un conte, ou, pour revenir à la Bible, comme une parabole, pour nous faire passer un message tout à fait révolutionnaire. Jonas a un message tout à fait révolutionnaire. Alors, quelques incohérences, quelques invraisemblances du récit. D'abord, c'est un prophète bizarre, Jonas, parce qu'il fuit exactement à l'opposé pour échapper au Seigneur. C'est bizarre comme prophète. Ensuite, les marins, ils prient. Ces marins qui sont des païens, ils prient leur dieu, etc. Jonas, lui, dort. Et puis on dit qu'ils jettent tout par-dessus bord, mais qu'ensuite, ils ont quand même tout de suite de quoi offrir des sacrifices et manger. Donc vous voyez, tout est exagéré, etc. Les païens, eux, deviennent tout d'un coup des fervents adorateurs de Dieu, une fois qu'ils ont jeté Jonas. Hein. Ils ont un sens moral très aigu de la situation. Référence, c'est le chapitre 1, verset 14 à 16. Tout d'un coup, ils invoquent le nom du Seigneur. « Ah Seigneur, nous ne voulons pas périr en partageant le sort de cet homme. Ne nous charge pas d'un meurtre dont nous sommes innocents, car c'est toi, Seigneur, qui fais ce qui te plaît. » Donc vous voyez, ces païens, tout d'un coup, ils ont un sens exact de qui est Dieu. Ils font une profession de la liberté de Dieu. « C'est toi qui fais ce qui te plaît. » Ils adorent Dieu. Ils furent saisis d'une grande crainte et lui offrirent un sacrifice et firent des vœux. Donc vous voyez que on parle de ces païens comme tout d'un coup des plus grands croyants que Jonas, évidemment. Alors la baleine, évidemment, une baleine, effectivement, un homme rentre dans une baleine, hein, tellement c'est gros. Mais vous voyez, cette baleine, elle l'a jetée et il arrive à Ninive. Hein, Ninive, c'est à plusieurs centaines de kilomètres de la mer, donc on ne sait pas comment. Vous voyez, tout ça, c'est imagé, c'est un conte, bien sûr, vous l'avez compris. L'auteur dit aussi, autre incohérence, dit 3 jours pour traverser Ninive. Hein, il fallait 3 jours pour traverser tout Ninive. Et puis, aussi sûrement très exagéré, en tout cas, en un jour, déjà, tout le monde est converti. Alors, bon, comment c'est possible? Les hommes, les enfants, même le bétail. Et puis, quelle prédication il donne? En hébreu, c'est 5 mots qu'on a traduit par... Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Quel appel à la conversion? En tout cas, c'est d'une efficacité redoutable. En 5 mots, il convertit 120 000 personnes. Et puis, en quelle langue il a parlé? Parce que les habitants de Ninive, bon. Vous voyez, donc tout ça montre que ce sont des incohérences. Le brave Jonas ne dit pas grand-chose, 5 mots. Par contre, c'est le roi qui se livre à une vraie réflexion théologique sur l'agir de Dieu. Il décrète les mesures pour obtenir le pardon. Vous vous souvenez, le roi décrète, par décret du roi et son gouvernement, interdiction est faite aux hommes et au bétail de goûter quoi que ce soit, et donc il proclame le jeûne, interdiction est faite de faire paître, et interdiction est faite de boire de l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sac, ils invoqueront le nom Dieu avec force, chacun se convertira de son mauvais chemin. Donc, vous voyez, celui qui a le message de conversion, c'est pas Jonas qui dit pas grand-chose, c'est le roi. Alors, et ce message est tellement efficace parce qu'on n'a jamais vu même les bêtes se convertissent. Dans tout l'Ancien Testament, on ne le voit pas. Bon, la ville de Ninive, d'après les archéologues, n'avait pas 120 000 habitants non plus. Hein, c'est sûrement aussi très, très exagéré. Alors, il y a d'autres réminiscences bibliques pour vous montrer qu'on est vraiment dans l'univers biblique, mais que on se sert de ces éléments pour enseigner quelque chose. Il s'agit de construire une histoire, une fiction, pour enseigner quelque chose de très profond. Donc je vous ai parlé de la Genèse avec le déluge. On peut parler de Caïn aussi dans la Genèse, au chapitre 4. Caïn se fâche contre Dieu, comme Jonas, par rapport à Abel, dont l'offrande est agréée. hein, parce que c'est le fruit de son amour pour Dieu, de sa ferveur pour Dieu, et Caïn est jaloux, Caïn va se fâcher contre Dieu. Donc là aussi, on voit quelque chose de très semblable avec Jonas, qui se fâche contre Dieu. Il y a la ville de Sodome et de Gomorre aussi. On voit que le péché, comme à Sodome et Gomorre dans Ninive, est généralisé. Et c'est le même mot qui est utilisé. La ville de Sodome et Gomorre, les villes de Sodome et Gomorre vont être bouleversées. Et ici aussi, c'est le même terme hébreu qui est utilisé dans la prédication de Jonas. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Tout sera chamboulé dessus dessous, qu'on a traduit par détruite. Mais c'est le même mot. Donc vous voyez, c'est... Et puis le salut de Ninive vient de l'extérieur, comme celui de Sodome et Gomorre. Bon, finalement, les deux cités n'ont pas le même sort, puisque les cités de Sodome et Gomorre sont détruites, Ninive est sauvée, mais vous comprenez qu'il y a un parallèle entre les deux. Et puis, une autre réminiscence biblique très importante, c'est Élie, le plus grand des prophètes. Et là aussi, l'auteur du livre de Jonas ne manque pas de touper, de comparer Jonas à Élie. Jonas, après avoir eu ce succès formidable d'avoir fait revenir tout le peuple vers le Seigneur après ce sacrifice sur le mont Carmel, vous savez où, il fait tomber le feu du ciel sur l'offrande qu'il a arrosée, il a tué tous les prophètes de Baal, donc c'est une grande victoire, il marche 40 jours et il est complètement abattu, hein, il invoque la mort, hein, il veut mourir. Et puis Dieu le nourrit et il va rencontrer le Seigneur sur le mont Horeb. Eh bien, c'est un peu pareil, d'une certaine manière, Jonas. Jonas reste 40 jours et puis, dans le vent de la baleine, il invoque la mort, il veut mourir. Et la fin, évidemment, est un petit peu différente. Donc, voyez, tout ça pour nous montrer qu'il s'agit vraiment d'un enseignement biblique, d'un enseignement théologique porté par une histoire extravagante, mais qui n'en est pas moins biblique. Alors, troisième point, il y a deux messages que je vais vous livrer de ce livre. Et puis, nous en verrons un troisième, mais c'est vous qui allez le trouver. Ce sera le petit exercice que nous allons faire. Alors, deux messages. Premièrement, c'est le premier message qui est, on va dire, une caricature de théologie. Tout est à l'envers dans ce livre. Ce sont les païens qui retournent vers Dieu. Par contre, le prophète, il fuit, il dort, il exécute sans aucune conviction la mission du Seigneur, il boude, il fait la tête, il est fâché, il veut mourir. Hein, comme prophète, c'est pas terrible. Hein. Ensuite, Dieu commande tout. La tempête, le poisson qui va avaler Jonas, la plante qui monte, qui pousse en un jour, et puis ensuite le ver qui pique la plante et qui crève aussitôt. Donc il commande tout, il a pouvoir sur tout, c'est vraiment Dieu. Il y a un seul sur lequel il n'a pas de pouvoir, c'est Jonas. Jonas, il essaye, hein. Mais alors vraiment, il est dur, il a la tête dure celui-là. Alors, on a l'impression que Dieu ne peut pas le lâcher et qu'il est sans cesse en train d'inventer des choses, des nouveaux moyens pour le ramener à sa mission. Hein, souvenez-vous, il fuit à l'autre bout, Dieu le ramène avec la baleine, puis ensuite il fait la tête, Dieu lui met un ricin, puis après le ricin il meurt, vraiment, voilà. Alors bref, Dieu a plus de travail avec Jonas, qui est le prophète de Dieu, qu'avec toute la création qu'il dirige, qu'il maîtrise, et qu'avec les 120 000 païens de Ninive. Hein ? En fait, le personnage, le problème de ce livre, ce n'est pas les 120 païens qui doivent se convertir, c'est Jonas qui doit se convertir, vous l'avez compris. Alors, évidemment, tout ça raconté avec beaucoup d'humour. Alors, quel est le message ? Eh bien, cette caricature de prophète devient un message théologique. L'auteur dénonce une certaine caricature, un certain Israël qui existait à l'époque, au 3e, 3e siècle avant Jésus, qui se croyait bénéficiaire exclusif du salut et qui n'acceptait pas que Dieu puisse faire miséricorde aux autres, surtout aux ennemis. Alors, pour caricaturer ce peuple d'Israël, eh bien, l'auteur ramène tout à une personne. Qui plus est, un prophète, et pas n'importe lequel. On l'a dit, il ressemble à Élie, par certains côtés, le plus grand des prophètes. Et puis, alors, il durcit, il grossit les traits, bien sûr, pour montrer le ridicule de l'attitude. C'est quoi ce prophète qui boude ? Vous voyez ? Donc, pour montrer le ridicule de l'attitude de Jonas et donc de certains juifs qui étaient comme Jonas, qui sont fâchés, qui ne peuvent pas accepter, qui ne peuvent pas supporter que le message que Dieu adresse à son peuple soit pour tous. Au fond, Jonas, c'est le miroir d'une pensée qui prévaut chez beaucoup de juifs à l'époque, que l'auteur résume, rassemble en un homme. Alors, l'auteur veut amener les lecteurs à leur faire prendre conscience du ridicule de cette attitude, qui est complètement étroite, qui est infantile, aussi infantile que ce prophète qui se fâche, au lieu d'être heureux, de se réjouir à la seule idée que les païens vont aussi être sauvés. Si les païens se convertissent, mais c'est magnifique, merci Seigneur. Eh bien, l'auteur veut leur faire prendre conscience qu'il y a quelque chose de ridicule dans cette attitude. Cette attitude étroite, infantile, qu'on refuse que les païens se convertissent. Que les païens ont droit à l'amour de Dieu. Que les païens ont droit aussi à la miséricorde et au pardon de Dieu, autant qu'à Israël. Et voyez ici, en fait, ce qui serait intéressant, ce serait de regarder dans notre vie toutes nos attitudes de Jonas. Quand est-ce qu'on est un Jonas ? Voyez, on est un Jonas quand on dit « hors de l'Église, point de salut ». Quand on pense qu'on a la vérité théologique parfaite, que l'Église a la vérité théologique parfaite, que l'Église, bon, ça, à la limite, quelle est la vérité, puisqu'elle est l'Évangile, d'accord, mais aussi qu'elle, dans sa pratique et dans sa morale, tout est parfait, et qu'on n'a rien à apprendre des autres. C'est un peu l'attitude, vous savez, du bocal. Hein. On est dans notre bocal, et on est bien au chaud entre nous, on a la vérité, et puis les autres, ça, d'abord ça ne nous intéresse pas, et puis ensuite, dès qu'ils s'approchent, on leur envoie un peu de poids là, pour pas qu'ils s'approchent. Vous voyez, on entend ça. Alors, c'est des exemples, hein. Je ne dis pas que c'est cette attitude, mais on entend un peu ça, par exemple, quand on assiste, bon là, avec tous ces procès contre des prêtres pédophiles, etc., on entend parfois, des personnes qui disent « Oui, d'accord, mais il y a plus de pédophiles dans les familles. » Ben, c'est pas ça qui nous est demandé. Quand on dit « Il y a un prêtre qui est pédophile », on demande pardon et on n'a rien à dire. On n'a pas à se justifier. Donc, c'est pas si grave, finalement. Vous voyez, on se défend. On retrouve un peu cette attitude. On peut retrouver aussi cette attitude dans... Je le dis comme ça, mais c'est à réfléchir, hein, et prendre avec des... Mais voyez, dans la manif pour tous, j'ai rien contre et je suis d'accord avec leurs idées dans l'ensemble, mais voyez, dans l'attitude qui peut prévaloir à ça. Hein. Nous, on est les bons, les purs, les durs, et puis tous les autres, ils sont des méchants, et puis de toute façon, ils n'ont pas le droit à rien comprendre et à rien savoir. Sans écouter ce que l'autre a peut-être à m'apporter, à me dire. Bon, tout ça c'est des caricatures et des choses très... Mais c'est pour vous donner des idées, pour voir quand est-ce que nous, on peut avoir ce genre d'attitude, hein, un peu l'attitude de Jonas. Aussi par rapport à l'islam. Nous on a, vous voyez, deux tendances. Tout le monde, il y en a qui disent oui, ben, on a tous le même Dieu, donc voilà, ça va, bon, il y a des terroristes, ok, mais on adore tous Dieu. Puis il y a ceux qui vont dire non, nous on a la vérité, et puis... ils adorent, on ne sait pas qui, mais en tout cas, c'est pas Dieu, c'est pas notre Dieu. Donc, vous voyez, cette attitude, je ne tranche pas entre qui a raison, qui a tort, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais vous voyez, quelle est l'attitude que nous avons dans notre cœur quand je rencontre quelqu'un qui n'est pas croyant, quelqu'un qui ne vit pas, qui est divorcé, remarié par exemple, ou je ne sais pas quoi. Quelle est l'attitude de mon cœur? Est-ce que je veux préserver, hein, je vous parlais du bocal, ça peut être aussi la tour d'ivoire. Hein, on se retranche entre nous dans la tour d'ivoire. Hein. Donc est-ce que je me sens agressé quand quelqu'un qui ne pense pas comme moi, qui n'est pas comme moi du tout, il arrive auprès de moi? Vous voyez, c'est un peu tout ça qui est dénoncé par l'auteur de Jonas. Et c'est cette première leçon de théologie, ce premier message biblique qui nous est donné, c'est que le salut n'est pas réservé à nous, les chrétiens, nous, les juifs pratiquants, ceux qui pensent bien comme il faut et bien ce qu'il faut. Vous comprenez? Donc ça, c'est très très important comme ce que veut corriger la Bible comme une de nos attitudes. Le deuxième message, c'est le salut pour tous. Le fond du message de Jonas est très clair et facile. Dieu pardonne aux Ninivites. Ils ont péché, ils se sont convertis. Ok. Mais est-ce que nous voyons toutes les conséquences que cela entraîne? Et toutes les conséquences pour les juifs de l'époque. Ninive est le plus grand ennemi d'Israël, encore plus que Babylone. Babylone qui a détruit le temple, qui a déporté tout Israël. Ninive est encore plus méchant que Babylone. Et voyez, c'est pour eux que la miséricorde de Dieu, donc l'auteur de Jonas, met en œuvre Ninive. Donc c'est à eux spécialement que s'adresse cette miséricorde de Dieu. Donc la miséricorde de Dieu qui n'est pas seulement pour Israël, mais donc pour Ninive. Et donc si c'est pour Ninive, c'est aussi pour toutes les nations. Alors, ce salut, il est pour tous, mais maintenant, comment l'obtenir? Alors, à une première lecture peut-être un peu rapide et facile, eh bien, les Ninivites doivent être tués, doivent disparaître, doivent mourir. Le prophète arrive, prêche la conversion, les Ninivites se convertissent, Dieu entend et voit ce qu'ils ont fait, et donc il ne les détruit pas. On a une théologie un peu facile, apparemment, de la rétribution. Tu t'es converti, donc tu ne seras pas détruite. Tu pêches, donc tu es puni, tu es détruit. Hein, et c'est un peu ce qu'on entend. Dieu vit leur réaction, et donc il renonça au mal qu'il avait prévu pour eux. Mais c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est ça qui va rendre furieux Jonas. Il se fâcha. Jonas le prit mal, très mal. Il se fâcha, il pria le Seigneur et dit « Ah Seigneur, n'est-ce pas précisément ce que je me disais? Voilà pourquoi je m'étais empressé de fuir. Je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux. » C'est ça qui fait que Jonas ne supporte pas. Je savais bien, oh là, je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire le mal. Je le savais, t'es trop gentil. Et Jonas ne supporte pas. Alors voyez, si Dieu pardonne, c'est pas en fait à cause de la rétribution, c'est pas à cause de ce que Ninive a fait, même si Ninive s'est converti. Si Dieu pardonne, et c'est dit par Jonas, c'est à cause de l'être même de Dieu, à cause de ce qu'il est. Et ici, Jonas, enfin, l'auteur, reprend quasiment mot pour mot la présentation que Dieu donne de lui-même à Moïse, dans Exode 3, quand Dieu apparaît dans le buisson ardent. Voilà comment Dieu se présente. Ce Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, plein de bienveillance. Donc ici, Jonas dit le nom de Dieu, dit ce qu'est Dieu. Et c'est à cause de ce qu'est Dieu que Dieu pardonne, et non pas à cause de ce qu'ils ont fait, que les Ninivites ont fait. Vous comprenez? Donc le pardon de Dieu ne dépend pas de notre conduite, de ce que nous avons fait de bien, de mal, en négatif, mais il est le fruit de l'amour gratuit de Dieu. Et ça, c'est le deuxième message du livre de Jonas. Dieu agit à cause de lui-même et pas à cause de nous, même si nous avons fait des choses merveilleuses. Et si nous avons, heureusement, si nous avons fait des choses terribles. Vous comprenez ? Dieu agit à cause de ce qu'il est lui, à cause de sa bonté, de son être bon. Tu es bon et miséricordieux, lent à la colère et plein de bienveillance qui revient sur sa décision. Donc c'est Dieu qui revient sur sa décision, ce n'est pas à cause de ce qu'on a fait. Et ça, il en est abasourdi, Jonas. Ça le met par terre, il ne supporte pas. Il se fâcha très mal. Il le prit très mal. Et l'autre passage donc, qui justifie sa conduite, Dieu justifie sa conduite avec les deux derniers versets du livre. Quand Dieu pose la question à Jonas, « Est-ce que tu as raison de te fâcher à cause de cette plante ?» Jonas répondit, « Oui, j'ai raison de me fâcher à mort. » Il a la tête dure, hein, celui-là. Et alors le Seigneur lui dit, « Toi, tu as pitié de cette plante pour laquelle tu n'as pas peiné et que tu n'as pas fait croître. Fille d'une nuit, elle aura disparu, âgée d'une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes sans nombre. » Vous voyez, donc Dieu justifie sa conduite avec ces deux derniers versets. Dieu justifie sa conduite avec pédagogie et tendresse. Si Dieu a fait crever le ricin, c'est la pédagogie de Dieu. C'est pour réveiller un peu et pour poser cette question à Jonas. T'as raison vraiment de te fâcher? Tu crois vraiment que ça vaut la peine? Alors est-ce que Jonas entend? Vous voyez, ça reste en suspens. Il n'y a pas de réponse. C'est génial, hein, c'est génial. Donc avec pédagogie et tendresse, Dieu excuse les Ninivites qui sont faibles et ignorants. Il y en a je ne sais pas combien qui ne savent même pas distinguer la droite de leur gauche. Et il montre tout l'amour et l'attachement qu'il a pour l'humanité. Tu pleures pour une plante qui ne t'a rien coûté. Alors combien moi, je pleure, je m'émeux pour 120 000 personnes que j'ai créées moi. Toi, tu n'as rien fait. Moi, je les ai créés, ces gens-là. Ça m'a fait penser à l'évangile, de la parabole de Jésus avec les ouvriers de la 11e heure qui arrivent, qui n'ont rien fait, et ils sont payés le même prix que les autres. Alors, évidemment, ceux qui ont passé toute la journée, ils râlent, un peu comme Jonas. Non, Et qu'est-ce que le maître dit ? N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien ? Vas-tu regarder d'un œil mauvais parce que moi je suis bon ? Vas-tu regarder d'un œil mauvais parce que moi je suis bon ? Vous voyez, donc c'est vraiment, cet évangile se termine par une question comme Jonas qui se termine par une question. Vas-tu regarder d'un œil mauvais parce que moi je suis bon ? Parce que moi je fais le bien. Donc vous voyez, ça c'est le deuxième message du livre de Jonas, c'est que l'amour de Dieu est universel et que l'amour de Dieu, il vient de lui. C'est son être qui est bon. Il est bon, Dieu. Et il fait le bien. Il ne veut que faire le bien à partir de lui, quel que soit notre péché, quel que soit ce que nous avons fait en bien ou en mal. Vous voyez, c'est pas nos actions, nos mérites qui mesurent l'action de Dieu, le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est gratuit. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est d'une modernité, le livre de Jonas, qui est hallucinante. Vous voyez, cet amour de Dieu, elle est pour tous. C'est la miséricorde. C'est cet amour gratuit, miséricordieux de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Jonas comme prophète, à cause de l'année de la miséricorde, parce que c'est vraiment le prophète de la miséricorde de Dieu. Alors il y a un troisième message que je vais vous laisser maintenant chercher. Vous allez vous mettre à 3, 2, 3 ou 4, comme vous voulez, avec cette question. Quelle est la pointe de la parabole, de cette parabole de Jonas? Vous savez que dans toutes les paraboles, on dit qu'il y a une pointe. On raconte toute une histoire, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir, avec la baleine et tout ça, on s'en fiche. Ce n'est pas ça le problème de Jonas. des paraboles que donne Jésus, il y a toujours une pointe, il y a toujours un message, quelque chose que Dieu veut enseigner. Donc il y a un point précis, et pour ça, deux sous-questions qui vont vous aiguiller. Pour comment expliquez-vous cette attitude de Jonas qui le prie très mal et qui se fâche? Donc le verset 4.1, Jonas le prie mal, très mal, il se fâcha. Donc comment expliquez-vous ce verset? Et donc, pour aussi répondre à cette question de la pointe de la parabole, à quelle parabole ou à quel personnage de l'Évangile ce passage, ce livre de Jonas, vous fait penser? On a parlé de, je vous ai cité donc l'ouvrier de la 11e heure, donc ce n'est pas celui-là, c'est un autre passage qui est très, très fort, très précis, qui parle de la miséricorde. Donc là aussi, on a cette année de la miséricorde, c'est très important, et avec lequel on va faire le parallèle et qui va vraiment nous conduire à quelque chose d'un, là aussi, très fécond dans notre lecture du livre et très fort. D'accord ? Alors on a un quart d'heure.